Histoire d'archives avec Laure Franek. Laure, bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, nous allons un peu délocaliser l'émission, car nous allons parler de l'abolition de l'esclavage, qui concerne également notre département, parce que nous sommes quand même impactés, même si c'est un petit peu dans les contrées lointaines.
Tout à fait, oui, il y a un réel impact, j'allais dire, de manière immédiate, dont on ne se rend pas forcément compte aujourd'hui, c'était l'introduction des produits coloniaux sur les marchés français, y compris dans les Basses-Alpes. On a eu l'occasion d'en parler quand on a évoqué les repas des Basses-Alpins. Les produits coloniaux étaient présents assez tôt. Alors évidemment, des plus riches dès le 17-18e. Mais après, il y a eu une réelle démocratisation de ces produits-là, le sucre, le café et le cacao essentiellement. Donc l'esclavage, Il faut comprendre que c'est une réalité économique, même si ça fait bizarre de dire ça. Il y a évidemment un enjeu moral, on y reviendra. Mais la réalité de l'esclavage, c'était la réalité économique et dont les Basses-Alpes ont été aussi témoins avec l'introduction de ces produits-là dans le marché local.
Alors, on connaît tous certaines dates.
Oui.
On connaît moins certains faits. On pensait que Napoléon avait rétabli l'esclavage, mais c'est un décret qui était plus ou moins appliqué, c'est ça?
Voilà. Alors, en fait, on va peut-être un petit peu recontextualiser rapidement. Hein, donc, effectivement, avec la colonisation ça a commencé très tôt, mais disons pour les Français, essentiellement à partir du XVIIe siècle, avec ce qu'on appelle, nous, le Nouveau Monde, qui n'était pas nouveau pour les gens de là-bas, mais nouveau pour les Européens, il y a donc le début de ce fameux commerce triangulaire, hein, qui a perduré. Donc je rappelle, hein, pour nos auditeurs, le fait que sur les grands, pour la France, hein, évidemment, je vais pas non plus parler de l'histoire mondiale de l'esclavage, parce que là, ça serait vraiment très compliqué, mais au moins pour la France, les grands ports de la façade atlantique partaient avec des bateaux chargés de matériaux, on appelle ça la pacotille, hein, mais bon, de choses sans grande valeur, aller dans les ports en Afrique, notamment Gorée, échanger des hommes contre cette pacotille, partaient ensuite outre-mer, donc essentiellement les Antilles, hein, on en reparlera, et vendaient ces esclaves, revenaient avec des produits coloniaux, dont cacao, mais aussi du bois, hein, tout l'âge d'or de la marqueterie française avec des bois tropicaux, hein, qui notamment à la fin du XVIIe et au XVIIIe siècle. Hein, on a des très belles réalisations, mais il faut savoir que derrière, c'est justement ce commerce triangulaire qui en est la cause. Hein. Voilà, donc effectivement, donc alors, très très vite, hein, dire aussi important, il y a le fameux code noir, on en parle pas très souvent, or c'est assez intéressant. Le code noir, c'est un code promulgué par Colbert qui est censé régir justement la relation maître-esclave. C'est un texte très intéressant parce que en filigrane, on voit on demande quand même au maître d'être relativement humain. Je mets plein de guillemets. Hein. On doit traiter l'esclave, qui est malgré tout un bien meuble. Hein. C'est-à-dire, c'est un objet, c'est une propriété. Mais il y a ce code qui est censé encadrer. De fait, on sait qu'il a été très très mal appliqué parce que les colonies étaient loin et que, j'en reparlerai, numériquement, les Blancs étaient nettement minoritaires par rapport à la population esclave et que, de manière mécanique, c'est une société violente parce que les Blancs ont peur pour eux. À juste titre, d'ailleurs, ils ont des raisons, parce que, effectivement, la situation est intenable pour la population esclave et qu'il y a, des esclaves qui se sauvent, des esclaves qui se révoltent. Il y a une grande peur concernant tout ce qui est l'empoisonnement, donc des interdictions très très dures sur les. Parce qu'on estime, à juste titre d'ailleurs, que ces gens ont une bonne connaissance des plantes et donc sont en capacité d'empoisonner les maîtres.
Et ils sont dans leurs meubles surtout.
Et voilà, et pour certains, voilà. Donc justement, c'est souvent les femmes d'ailleurs qui souffrent des sévices liés aux craintes de l'empoisonnement parce qu'elles servent de domestiques et elles sont dans les maisons des maîtres. Voilà. Donc une société violente j'allais dire, obligatoirement violente, puisque j'en reparlerai après, parce que c'est vraiment un document très intéressant que nous n'avons pas, malheureusement, aux archives départementales des Alpes d'Haute-Provence, mais dont nous avons copie, parce que notre directeur a précédemment travaillé aux archives départementales de Lozère, hein, et eux, ils avaient ce document, qui a sans doute été envoyé partout en France en 1789, au moment des États généraux. Et c'est en fait un grand tableau qui s'appelle « Aperçu de la balance du commerce de la France en 1789 ». Et là, c'est très intéressant parce qu'on voit vraiment le poids que représentent les colonies, le poids économique et le rapport blanc-esclave et la valeur que ça génère. Et quand on se rend compte de ça, on comprend pourquoi l'esclavage a duré si longtemps, parce que c'était un réel apport économique. Et pour revenir à votre question première, parce que du coup, j'ai un peu dérivé, si effectivement il y a eu cette première promulgation de l'abolition de l'esclavage en 1794, si je ne me trompe pas, et que, sur laquelle est revenu Napoléon, c'est parce qu'il y avait des freins économiques très forts, qu'il y avait un problème de distance par rapport à la décision du pouvoir central et l'application de ces décrets. Parce qu'autant vous dire que la France s'est enrichie, il y avait cet esclavage, mais il y a aussi les familles qui se sont enrichies, les familles de colons. Et ils n'avaient pas du tout envie. On a des lettres hein, qui disent « mais vous ne pouvez pas supprimer l'esclavage, c'est la ruine des familles ». Ils pensent à eux, ils ne pensent pas évidemment aux esclaves. Donc ces freins-là ont été très forts et ont fait que, certes, il y a eu cette promulgation. Alors, quand on creuse un peu en 1794, si la Convention promulgue cette abolition, c'est qu'en fait, il y a des très très fortes émeutes, déjà avec Toussaint l'ouverture en ce qu'aujourd'hui on appelle Haïti, mais à l'époque on appelait l'île de Saint-Domingue. Très très fortes émeutes parce que, justement, on entend parler de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Il y a une espèce d'appel à la liberté. Et donc, il y a des rumeurs comme quoi peut-être qu'il y aura une abolition. Donc il y a des émeutes très importantes. Et on est dans un contexte de guerre, enfin de guerre économique hein, avec l'Espagne et l'Angleterre, qui lorgne sur ces richesses de l'île de Saint-Domingue. J'y reviendrai, vous verrez, c'est colossal, hein, l'argent généré par ces colonies. Et du coup, pour éviter l'embrasement, il y a cette promulgation de l'abolition. On se dit, il vaut mieux, on pacifie tout. Sauf que, en fait, ça n'a jamais réellement été promulgué. Alors, on sait que l'île de Saint-Domingue, après cette révolte et cet espoir, s'est transformé en indépendance. C'est quand même le premier, et peut-être même le seul, la seule colonie, sitôt à devenir indépendante parce qu'ils se sont révoltés. C'est quand même assez extraordinaire et très tôt. Donc, l'indépendance de l'île de Saint-Domingue, c'est 1804. Hein, donc, c'est vraiment très tôt dans le 19e. Donc voilà, et donc il a fallu attendre 1848 pour qu'il y ait une seconde abolition qui là, les temps ont changé, l'économie a changé, il y a beaucoup de choses qui le contexte a changé, pour que vraiment cette abolition soit appliquée.
Et Victor Schœlcher là-dedans, il était député, il était conseiller, il est en Outre-mer, qu'est-ce qui était exactement?
Alors, Victor Schœlcher, en fait, il avait beaucoup voyagé, donc il s'était rendu compte par lui-même, en fait, des méfaits de l'esclavage. Il a été sincèrement, je pense, choqué par ce qu'il a vu. Et en fait, on l'a nommé président de la commission d'esclavage des colonies françaises, en fait, vraiment pour préparer. Je crois que si vous voulez, c'est comme souvent pour tout. On voit toutes les grandes lois qui ont fait bouger la société. Plus récemment, le mariage pour tous, l'avortement. Il y a, si vous voulez, il faut que la société, elle soit en maturation sur ces idées-là. Et puis, à un moment donné, il y a un contexte favorable. On lance le débat. Il y a des chaos, c'est-à-dire ça passe pas forcément du premier coup, il y a des aménagements, mais ça finit quand même par passer. Et là, c'était le bon moment. Et la même chose avec le bagne. Hein. Le bagne, il a fallu qu'il y ait une campagne de presse, hein, des intellectuels, ce qu'on appellerait aujourd'hui des intellectuels qui prennent fait et cause et qui dénoncent pour que la société évolue. Et puis, de toute façon, ce sont des systèmes coercitifs, et on le sait que les systèmes coercitifs ne peuvent pas durer dans dans le temps. Je veux dire, il n'y a jamais aucun système, que ce soit concentrationnaire, dictatorial, en tout cas violent, qui peut tenir dans le temps. C'est impossible.
Heureusement.
Heureusement. Mais ça fait des dégâts malgré tout. Donc voilà, voilà l'histoire de cette abolition de temps, j'allais dire. Après 1848 pour la France, il y a des pays, par exemple la Russie, ça a été bien après. Les États-Unis, il a fallu attendre aussi. Enfin voilà, après, tous les pays n'avancent pas à la même vitesse, j'allais dire, sur ces questions de société et de morale, là, parce qu'on est vraiment sur la morale.
Et ce triangle d'or, vous parliez des ports français.
Oui.
Il y avait quoi, Nantes, Bordeaux ?
Alors, il y avait Nantes, Bordeaux, La Rochelle et Rouen, dans une moindre mesure. Ouais.
Ouais. Et toutes ces villes se sont développées, sont enrichies.
Écoutez, si vous allez à Bordeaux, vous voyez que c'est une ville qui s'est manifestement enrichie, notamment avec ce commerce. Hein. C'est clair, hein. des grandes richesses se sont constituées sur ce commerce. Hein. Alors justement, pour pouvoir parler de richesses, parce que ce fameux tableau est assez... Et vraiment, moi je ne le connaissais pas, je vous avouerai, je trouve ça étonnant, c'est un tableau qui est fort peu utilisé finalement pour expliquer la espèce de mécanique implacable, hein, qui est que oui, effectivement, on voit bien qu'il y a des voix, mais ne serait-ce que Voltaire, hein, qui s'élève à un moment donné pour dire mais ce sont des êtres humains quand même, mais il y a cette raison économique, ça n'a pas du gain, hein, soyons clairs, qui fait que on met sous le boisseau ces considérations morales, éthiques, et que ces considérations morales et éthiques, elles vont rester sous le boisseau assez longtemps quand même. Hein. Donc pour vous rendre compte un petit peu. C'est intéressant parce que c'est un tableau qui montre aussi les dépenses de la maison royale. Hein. Donc il faut avoir des bons yeux, mais on est en dépenses fixes de la maison du roi, maison de la reine et famille royale, on est à 25 millions de livres. Donc c'est colossal, sachant que les intérêts de la dette publique de la France à l'époque, c'était 225 millions de livres, hein, pour vous rendre compte un peu du rapport. J'arrondis, hein, à chaque fois. Donc ça, voilà, vous avez les sommes en tête. Maintenant, Saint-Domingue rapporté, on parle juste des importations, hein, 129 millions de livres. Donc vous voyez, c'est vraiment énorme, quoi. Martinique, 28 millions. Guadeloupe, 24 millions. Après, les autres colonies rapportaient moins, hein, mais... C'est vraiment Saint-Domingue qui était la plus importante, d'où je pense, si vous voulez, l'espèce de catastrophe que ça a été quand il y a eu ces émeutes et qu'il a fallu... parce que c'était vraiment la poule aux œufs d'or, quoi. Au niveau des populations, hein, pour ce qui est Antilles, donc Antilles, c'est-à-dire Guadeloupe, Martinique et Saint-Domingue, il y avait en tout 65 000 blancs pour 513 000 esclaves. Donc... forcément, je veux dire, c'est la violence à coup sûr. Et donc les esclaves sont évalués comme des biens à 180 millions de livres. Donc juste pour les Antilles. Hein. Et après, pour la zone Amérique et Afrique, hein, donc Amérique, bon, c'est la Guyane. Afrique, c'est Gorée notamment. 2500 blancs pour 13 200 esclaves pour une valeur de 2 milliards. 2 millions, excusez-moi. Voilà. Et après, dans ce qu'ils appellent les colonies au-delà du Cap de Bonne-Espérance, donc c'est Île-de-France, qui correspond à l'île Maurice, hein, Île-de-Bourbon, La Réunion, Madagascar, Pondichéry et Chandernagore, on est à 15 000 blancs pour 67 000 esclaves. Hein, voilà. Donc vous voyez, c'est... voilà, c'est, tout est dit, je veux dire. Et alors, pour vous dire quand même, parce que alors ça j'ignorais aussi, il y avait des primes encouragement pour la traite des Noirs. C'est-à-dire qu'on incitait vraiment ce commerce. Et donc il y avait... plus de 2 millions de livres qui étaient distribués pour ces primes. Donc c'était vraiment, j'allais dire, un rouage essentiel de l'économie de l'Ancien Régime qui a perduré jusqu'au 19e.
Est-ce que, comme on peut le voir, ce sont des fictions, comme dans La couleur pauvre de Spielberg, ou dans la série télé de Racine de 1977, l'original, est-ce qu'il y avait des Noirs qui allaient à l'encontre de leur couleur ?
Vous voulez dire dans les colonies ?
Dans les colonies, en Afrique surtout.
Alors, on a pas. De toute façon, on sait que ceux qui vendaient les esclaves aux blancs, c'était des gens de couleur. Hein, voilà, c'était pas des blancs installés là-bas. Hein, ça, c'est clair. De même qu'on sait, même si c'est. Alors, je veux dire, il faut pas non plus en faire un. Enfin, on peut pas extrapoler, mais il y avait ce qu'on appelait des hommes de couleur libres, afro, et certains avaient des esclaves. Voilà, je veux dire, ça paraît fou, mais c'est une réalité. On est dans une société qui chosifie des êtres humains pour le bénéfice d'autres, ça faisait partie d'un système qui pouvait même aller à l'encontre de gens qui finalement étaient issus des mêmes populations, mais qui tout à fait. Oui, non, mais on. De toute façon, vous savez, l'esclavage, il n'est pas né avec la colonisation du Nouveau Monde par les Européens. Hein. C'est une constante de la société humaine depuis l'Antiquité, même peut-être encore avant, parce qu'on ne sait absolument pas finalement les rapports qu'il y avait entre les. Certaines tribus, il y avait sans doute des rapports de domination qui allaient jusqu'à la mise en esclavage. De même que l'esclavage n'est pas terminé. Je veux dire, on parle aujourd'hui d'esclavage moderne. Je veux dire, il y a des procès encore régulièrement, y compris en France, sur des états d'esclavage. Alors, on est moins dans un. Là, ce qui est choquant, c'est que c'est l'organisation, c'est la systématisation qui est choquante, voilà. Mais malheureusement, l'esclavage n'est pas fini. L'esclavage des enfants, l'esclavage des femmes au travers de la prostitution, et puis les cas d'esclavage, effectivement, dans ce qui concerne les populations de domestiques dans certains pays à qui on confisque les papiers, voilà. Voilà, c'est vrai que ça paraît fou quand on voit ça, mais voilà, c'est...
Et ça se passe encore pour la confiscation de papiers, pour plein, pour de sportifs, en disant, si vous partez, ben, vous pouvez pas.
Ouais. Vous
pouvez pas. Je reviens sur Saint-Domingue, est-ce qu'on pouvait parler de population affranchie?
Alors, Saint-Domingue, moi, je connais pas très bien. Je connais mieux les Antilles pour avoir vécu. Donc, effectivement, il y a, numériquement, c'est rien. Hein, je veux dire, faut pas. Dire, en général, ce qui se passait, c'était soit un esclave qui avait rendu service à un maître. Il y avait quand même des maîtres qui étaient éclairé, j'allais dire, voilà, qui n'était pas... donc, qui, en fin de vie, ou pour remercier un esclave, l'affranchissait. Donc, bah, évidemment, et certains pouvaient, s'ils avaient un savoir-faire en ébénisterie, etc., pouvaient acquérir une certaine petite fortune, jusqu'à donc avoir quelques esclaves avec eux pour les aider dans leur commerce. Et il y avait aussi le deuxième cas qu'on rencontre, évidemment, c'est le maître qui fait un enfant à une esclave et qui reconnaît quand même l'enfant qui l'élève, et donc cet enfant est libre, même si la maman ne l'est pas toujours. L'enfant est libre, donc on a quelques cas. Un cas quand même assez incroyable pour la Guadeloupe, c'est le chevalier de Saint-Georges, hein, qui est un fils illégitime d'un maître, qui est devenu un musicien, reçu à la cour. Enfin voilà, donc il y a. Mais je veux dire, le problème, c'est que ce sont des figures, c'est l'arbre qui cache la forêt, vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai que moi je trouve ça assez rassurant de se dire que ça a pu exister, de même qu'il y a eu des hommes de couleur qui sont entrés dans les armées napoléoniennes, qui ont Toussaint l'Ouverture par exemple, hein, qui sont devenus des officiers. Mais je veux dire, c'est comme toujours l'arbre qui cache la forêt. La grosse majorité, c'était des sévices et des conditions de vie très dures, d'autant plus que le rapport numérique était évidemment très défavorable aux blancs. Et alors, on sait en plus qu'il y a des variations de conditions de vie selon les colonies. Les colonies, notamment hollandaises, étaient réputées très très dures pour leurs esclaves, très très dures.
Ils faisaient le commerce du tabac.
Pourquoi c'était très dur, je pense notamment au Suriname. Est-ce que faudrait voir, peut-être que le rapport numérique leur était encore plus défavorable, je parle pour les blancs, et que du coup il y avait vraiment, parce que notamment le phénomène de ce qu'on appelle le marronnage, hein, donc le phénomène de fuite d'esclaves et qui était donc pourchassé, parce qu'évidemment déjà c'était un exemple qu'on ne voulait pas qu'on ne voulait pas montrer aux autres. Et puis surtout, alors pas trop aux Antilles, parce que c'est pas évident, mais en Amérique du Nord, enfin en Amérique, pas du Nord, parce qu'on est plutôt Amérique centrale, voire Amérique du Sud, quand les esclaves arrivaient à s'enfuir, le territoire était tellement vaste qu'en fait, ils arrivaient à survivre. Et encore aujourd'hui, il y a des descendants de ce qu'on appelle de noirs-marrons, en Guyane française, au Suriname, et qui ont conservé certaines pratiques ancestrales issues d'Afrique, plus évidemment qu'ils ont acquis en plus un savoir propre à l'Amérique. Et c'est assez fascinant, hein, c'est assez fascinant. Et donc là, c'est sûr qu'il y avait des répressions très très dures et des mutilations, enfin vraiment une répression sanglante de ces noirs marrons.
Et comment ça se passait? Parce qu'un esclave avait un maître, mais le maître pouvait avoir des dettes, et les esclaves appartenaient au maître, mais ils étaient vendus à d'autres personnes. Comment ça se passait pour ça, pour ces pauvres esclaves?
Ah ben, c'est-à-dire que oui, il y avait un... Alors, c'est-à-dire qu'effectivement, un maître pouvait vendre à un autre maître des esclaves. Vous savez, c'est vraiment... On les comptabilise comme un cheptel, hein. Dans les inventaires après décès, il y a les troupeaux, et puis il y a le troupeau d'esclaves. Hein. C'est des bêtes, hein. C'est des bêtes, hein.
Vous êtes venu avec un petit peu de musique,
Lourdes. Oui, oui, un peu une musique de... Alors, sans mauvais jeu de mots pour les auditeurs, je me suis rendu compte en arrivant à la station de radio que j'avais choisi un morceau d'un chanteur et d'un groupe qui s'appelle Frank Black. Voilà. Et le morceau s'appelle Los Angeles. I met a man. He was a good man. Sailing and shoring. Dancing the bed I can't down, making me foreign. Ah, yeah. pas parler de la date de la journée mondiale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition. En fait, en métropole, c'est le 10 mai, qui correspond à la date de promulgation de la loi Taubira, 10 mai 2000. J'ai un doute d'un seul coup. 2000. Quand est-ce que la loi Taubira a été promulguée? 2006. J'ai un doute, mais bon, on va trouver. En tout cas, c'est le 10 mai qui a été choisi du coup pour la métropole, sachant que dans les départements d'outre-mer, ce sont d'autres dates, parce que dès 1983, ils ont instauré des jours fériés pour commémorer l'abolition de l'esclavage. Et en général, les outre-mer ont choisi les dates d'application des décrets dans leur territoire. Voilà. Donc ça donne du coup le 27 mai en Guadeloupe, le 22 mai en Martinique, le 10 juin en Guyane, le 20 décembre à La Réunion. Vous voyez, il y a vraiment, ce qui montre bien aussi les difficultés d'application des décrets et le décalage, parce que je rappelle que le décret de Victor Schœlcher, c'était le 27 avril 1848. Donc il y a eu un sacré décalage entre la promulgation de la loi et sa réelle application. Voilà. Non, j'essayais de retrouver la date Taubira, mais de la loi Taubira, mais si je la retrouve, je la dirai. Voilà, 10 mai 2001. Donc c'est bien ça, 2001. Je ne sais pas pourquoi j'avais 2006 en tête, mais c'est bien 2001. Voilà. Donc ça, intéressant à savoir. Autre chose aussi, s'il y a des auditeurs qui sont intéressés par l'histoire des colonies, il faut savoir que le service, alors c'est un service à compétence nationale qui gère toutes les archives générées par les anciennes colonies françaises, se trouve à Aix-en-Provence. L'établissement s'appelle les Archives nationales d'outre-mer. Et donc là, on peut consulter absolument les archives concernant de toutes les colonies françaises, y compris celles en Asie, hein, pas seulement les actuels départements d'outre-mer. Et ce sont donc des fonds très riches pour une histoire souvent douloureuse, malheureusement. Bon, il y a aussi des belles choses, mais bon, c'est, si les gens veulent se renseigner, y compris même sur les bagnards, hein, toute l'histoire des bagnards, c'est aux Archives nationales d'outre-mer, sachant qu'évidemment, il y a aussi des archives conservées localement dans les départements d'outre-mer, soit des archives originales, soit des copies, notamment sur microfilm, de ce qui se trouve concernant dans leur département, aux Archives nationales d'outre-mer d'Aix-en-Provence. Voilà.
Est-ce que les gens qui vont outre-mer, dans les Antilles, sont conscientes du poids de l'histoire quand ils vont là-bas ?
Alors, s'ils ont la chance d'être là quand ce sont certaines fêtes, que ce soit carnaval, parce qu'en fait, il y a quand même un imaginaire lié, notamment en Guyane, hein, sur le. On parlait tout à l'heure des noirs marrons, donc en créole, les nègres marrons, qui est très présent en fait dans carnaval, hein, même en Guadeloupe, hein, on retrouve ça, c'est d'ailleurs très impressionnant, on voit des groupes de personnes qui sont recouverts d'une espèce de mélasse, en fait, leur peau est noircie avec un produit qui de loin peut ressembler à du goudron, mais ce n'est pas du goudron. Ils se mettent souvent un quart d'orange dans la bouche, donc si vous voulez, ils sont très noirs et ils ont ce morceau d'agrumes dans la bouche très orange, et ils défilent presque en courant, de manière martiale en fait, au son des tambours. C'est donc le go-cap en Guadeloupe particulièrement, c'est très spectaculaire et ça fait très clairement référence à la résistance des esclaves, et c'est vraiment très 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 impressionnant. Après, il y a des fêtes, hein, liées à l'abolition de l'esclavage, et donc il y a quand même c'est quand même très présent, hein, quand on vit là-bas, les élèves travaillent sur ces sujets-là. C'est voilà. Après, est-ce que le touriste s'en rend compte? On peut pas l'ignorer, hein, vous allez visiter une habitation coloniale, ben vous savez que dans une habitation elle fonctionnait grâce à des esclaves, enfin voilà, c'est une réalité. Alors après, et puis c'est très présent dans l'imaginaire des gens, hein, c'est, il y a vraiment un, Moi, je pense qu'il y a un réel traumatisme collectif lié à ça, qui n'est pas encore surmonté totalement. Hein. Même s'il y a des, je pense que ces journées de commémoration doivent aider justement à surmonter ce traumatisme. Le fait d'avoir inauguré le Memorial Act, ce grand centre dédié aux mémoires de l'esclavage à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, doit aussi participer de ce travail de mémoire collective et oui, de surmonter ce traumatisme, parce que il faut parler de ces choses-là pour les surmonter. L'idée n'est pas de rester bloqué là-dessus, mais d'aller. Il faut savoir d'où on vient hein, pour aller plus loin.
Haïti n'est pas loin, mais est-ce que le vaudou était une forme de révolte là-bas ?
C'est une bonne question. Je sais pas. Ce qui est clair, c'est que les colons en avaient peur. Hein. On avait peur parce qu'ils ne le comprenaient pas. Voilà, il y avait quelque chose de très mystérieux qui était revendiqué comme tel. Voilà. Après, le vaudou, c'est très compliqué parce qu'on est à cheval entre effectivement des pratiques magiques, des pratiques religieuses, effectivement peut-être des pratiques de résistance qui sont difficiles. Et étudier le vaudou, c'est très compliqué parce qu'il faut pouvoir approcher des sociétés vaudou et ça se fait pas comme ça. En habitant en Guyane, moi j'ai eu, alors je sais pas si on peut dire la chance, parce que ça m'avait un peu traumatisé quand même, mais j'habitais en front de mer et à Cayenne, hein, et juste devant chez moi, il y avait ce qu'on appelle un carbé, c'est-à-dire un abri, et un matin, très très tôt, en fait, il y avait une scène d'exorcisme, donc c'était très impressionnant, c'était un prêtre vaudou qui officiait avec une jeune fille qui était manifestement possédé, on va dire ça comme ça. Il y avait sa mère à côté. C'était assez perturbant. C'était vraiment aux aurores. Et ça m'avait un peu perturbé. Et aux Antilles, et en Guyane, pareil, au moment des élections, notamment, il y a des manifestations vaudou. Il y a des coqs dont on trouve la tête coupée, qu'on installe à certains endroits. Voilà. Mais bon, après... C'est présent, mais c'est difficilement explicable parce qu'on n'approche pas ces sociétés-là comme ça. Hein. Voilà, c'est compliqué.
Pour revenir en étant un petit peu plus terre à terre au niveau des archives.
Oui, alors cette année, nous faisons quelques manifestations liées à l'abolition de l'esclavage. Donc tout d'abord le 23 mai, donc mercredi prochain, nous recevons aux archives au moins une classe de primaire, peut-être deux. Pour travailler dans un atelier sur ces questions-là, donc notamment en leur montrant ce fameux tableau qui montre le poids économique de l'esclavage et qui est donc, comme je le rappelle, hein, une des raisons pour lesquelles malheureusement cet état a duré bien trop longtemps. Et on va aussi aller dans des lycées, a priori soit fin mai, soit courant juin, notamment les lycées Pierre-Gilles de Gênes et les lycées Baudrechasse, pour travailler en atelier aussi avec des secondes cette fois sur ces questions-là. Voilà, donc on est très contents parce que c'est vraiment l'occasion en plus de rencontrer aussi des lycéens qu'on a du mal des fois à faire venir aux archives en groupe parce que les programmes sont tels que c'est pas toujours facile pour les enseignants de dégager du temps, mais là sur ces questions-là on arrive à travailler.
Et éternelle question, est-ce qu'ils se sentent concernés ?
Écoutez, je vous dirai ça la prochaine. Moi, j'ai jamais fait encore avec des jeunes. Oui, je crois que vous savez, hein. C'est quand j'ai été amenée à parler d'une correspondance de Poilu devant une classe de quatrième. Quand on part pour ce type d'atelier, on se demande toujours quel effet, comment les enfants d'aujourd'hui vont pouvoir pas se mettre à la place, mais recevoir ce morceau d'histoire-là qui est finalement assez lointain. Et en fait, c'est un peu la magie des archives, c'est-à-dire que c'est une chose d'entendre un professeur parler de l'histoire, c'en est une autre de voir des documents originaux, ou même des facsimilés, hein, mais des documents qui sont la preuve que, pour la Première Guerre mondiale, qu'il y avait un soldat qui écrivait à sa femme, avec ses mots à lui, qui racontait sa vie, ça les touche, les enfants. Et là, je pense que de voir des archives, là, on a sorti hier avec M. Labadie des manuels scolaires de la fin du 19e. Enfin, je veux dire, de voir comment on parlait des colonies, comment on parlait des populations hein, qui étaient considérées... comme des gens qu'il fallait, qui n'étaient pas capables d'être autonomes. C'est la notion de dépendance. C'est-à-dire, on se présentait comme étant, heureusement qu'on allait coloniser ces populations. Donc, de voir ces manuels ou ces archives, ça va les toucher, forcément. Forcément.
Voilà. Et ça sera quand exactement ?
Alors, donc pour les enfants, on va faire ça le 23 mai avec les primaires. Et après, ce sera soit 30 mai, soit courant juin avec les lycéens. Voilà. Mais là, après, c'est des activités qu'on fait uniquement pour un public scolaire, c'est-à-dire que le public n'est pas invité. En revanche, pour parler de l'actualité des archives qui, là, sont ouvertes à tous. Alors, ce soir, à Valensole, à la chapelle Saint-Mailleul, il y a une lecture d'archives sur la vie rurale à Valensole et dans les Basses-Alpes. Donc, c'est la compagnie Mobile Compagnie ce sont les comédiens de la Mobile Compagnie qui vont lire des archives sur les Basses-Alpes et en particulier sur Valensole et son territoire et qui évoqueront, ces archives évoqueront la vie rurale à la fin du XVIIe jusqu'au milieu du XXe siècle. Voilà. Et ensuite, la Mobile Compagnie interviendra à Aiglun avec une classe en fait de cours élémentaires et moyens, pareil sur une lecture d'archives mais lue par des enfants pour des enfants. Et enfin, une lecture, alors là on change complètement de sujet, mais le mois de mai 2018, c'est aussi l'anniversaire de mai 68. Et donc, on a décidé de présenter une lecture, alors c'est pas une lecture d'archives, mais c'est une lecture en musique, voilà. Donc ça s'appelle Mai 68, fais ce qu'il te plaît, avec la compagnie Les Harmonautes. Et donc il y aura au piano Olivier Le Chardeur, au violon Marie-Laurence Roca, au violoncelle Frédéric Lagarde, et la récitante sera Sophie Brochet. Donc là c'est aux archives départementales, l'entrée est libre, c'est jeudi prochain, le jeudi 24 mai à 18h. Voilà, c'est la compagnie qui est déjà intervenue pour les auditeurs qui seraient venus. On avait fait le mimodrame de Igor Stravinsky sur un texte de Ramu. Voilà, et ça avait enchanté le public. On est très contents de recevoir cette compagnie à nouveau pour ce thème de mai 68. Plus léger, même si les enjeux sont graves aussi que l'esclavage ou la Première Guerre mondiale. Voilà.
Prochain rendez-vous avec vous le 21 juin, troisième jeudi de juin.
Voilà, tout à fait.
Avant la pause estivale,
voilà. Merci bien.
Merci Laure, à bientôt.
À bientôt.